Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Éternel Dieu, tout puissant, digne es-tu, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu, éternel Dieu, tout puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen.
Saint, Saint, Dieu puissant. Nous sentons, Seigneur, ta présence. Nous sentons ta sainteté. Nous sentons combien nous sommes indignes. Nous sentons, Seigneur, combien encore nous avons besoin de toi pour grandir et être encore plus à ta ressemblance. Nous sentons en nous encore, Seigneur, tellement d'actions de la chair. Et pour cela, nous te demandons pardon. Nous sentons, Seigneur, que nous avons besoin de nous sanctifier encore plus afin de pouvoir se tenir devant toi, Seigneur, en ce jour. Toi qui as donné ta vie pour nous. Seigneur, mon Dieu, les larmes montent dans nos yeux. Parce que nous réalisons ton amour, ta compassion envers nous, Seigneur, et aussi notre indignité. Mais Seigneur, nous te disons merci pour l'espoir qu'il y a en toi, Seigneur, et la vie éternelle, et la place que tu nous as réservée dans la gloire. Tu es saint, Seigneur, et ta sainteté dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ô mon Dieu, tu ne veux pas ni ne peux supporter le péché sous aucune forme que ce soit. Tu veux que nous soyons un peuple saint mis à part pour toi. Ô Jésus, travaille dans nos cœurs encore ce matin. Déjà, tu nous as fait du bien, Seigneur. S'il te plaît, merci, fortifie-nous encore, encore plus pour le témoignage de Jésus-Christ. Au milieu d'un monde de ténèbres. Ô Jésus, merci. Notre Dieu n'a pas fini encore avec le monde. Il n'a pas fini encore d'avoir compassion et encore compassion avec notre génération rebelle. Il n'a pas abandonné, car il a un plan merveilleux pour nous. Depuis quelque temps, nous parlons de ce futur extraordinaire et merveilleux qui est devant nous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous devons nous préparer pour cette nouvelle dimension dans laquelle Dieu nous appelle et dans laquelle il nous a promus, afin que nous ne nous laissions pas distraire par les choses de ce monde, distraire, abattre, décourager, ou entraîner, mais que veillants et priants, nous soyons prêts pour le grand jour de la délivrance, pour être promus à être avec lui un habitant de cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Le grand Dieu que nous servons n'a pas voulu résider et régner dans un lieu à part, dans un lieu séparé de la terre, par des milliards d'années-lumière. Non. Il n'a pas regardé la terre comme une poubelle, un objet irrécupérable. Il n'a pas regardé la terre comme un genre de cimetière d'hommes rebelles, de péchés et de faillites. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui de plus en plus se dégrade. Nous venons d'apprendre à travers les médias, ces actions terroristes à Bombay aux Indes, des jeunes gens, 17, 18 ans, très jeunes pour la plupart d'entre eux, fanatisés, tuant n'importe qui sur la route, abattant n'importe qui, détruisant. Nous voyons ce qui se passe en Birmanie. Des millions d'hommes et de femmes qui manifestent, qui bloquent tout. Nous voyons ce qui se passe au Nigeria, dans la ville de Jos, où des musulmans et des chrétiens se battent tout simplement parce que dans les élections, des chrétiens auraient eu plus de voix. Ceci se résume dans des batailles rangées et de combien de centaines de morts encore. Et la liste n'est pas terminée. À tout moment, à chaque instant, nous pouvons nous attendre, en allumant notre radio, d'entendre des tueries de tout genre à travers notre monde. Un fanatisme horrible, avec le nom de Dieu dans la bouche, de religions qui ne peuvent sortir du Dieu d'amour, qui appelle les hommes à la repentance, et qui veut encore pardonner, sauver, transformer, changer, guérir. Mais Dieu, malgré tout cela, n'a pas voulu rejeter la terre et en faire une poubelle, un genre de cimetière où l'homme serait laissé à lui-même. Tu as voulu cela, eh bien tu restes dans ton problème et je m'occupe plus de toi. Parce que tu ne veux pas écouter ma parole. Je suis un Dieu d'amour, un Dieu de tolérance, un Dieu qui se plaît à pardonner les péchés et à relever l'esclave, à relever le pauvre et à le placer au niveau des rois. Non, je n'ai pas abandonné ma création. Que de malheurs, que de larmes, que de souffrances. Qu'allons-nous apprendre demain par les médias? Que va-t-il se passer encore dans d'autres pays? Quand vous apprenez ce qui se passe en Amérique du Sud, toutes sortes de mouvements, de grèves, de tout ce qu'on veut. En Europe, on ne cesse de gréver pour n'importe quoi. Personne n'est satisfait, personne n'est content. Content de son sort. Personne. Pas étonnant, on a abandonné Dieu. Quand on abandonne Dieu, on ne peut jamais être content. Quand on abandonne Dieu et qu'on lui tourne le dos et qu'on devient des matérialistes à outrance ou qu'on adore des idoles et des faux dieux, où est le bonheur? Le bonheur est inaccessible désormais. Cette terre, Dieu a décidé de la racheter. Il a décidé de la ressusciter. Et à la fin de la restauration de cette terre, qu'il va faire, ce sera un monde bien plus grand, bien plus merveilleux, après avoir passé par la souffrance, la douleur de l'enfantement. Une nouvelle terre. On en parle chaque dimanche. Une nouvelle terre où la justice habitera, où Dieu habitera avec les hommes, où le ciel et la terre ne feront qu'un, où il n'y aura qu'une seule entité, avec un véritable bonheur, avec une vie éternelle dans des corps transformés, renouvelés, changés, des corps éternels, plus de souffrance, plus de péché. Voilà la perspective qu'il y a devant nous, mes frères. Je vous en supplie, n'abandonnez pas, mes frères. Si Dieu a voulu que je prêche cet évangile depuis 46 ans au Congo, c'est parce que Dieu a voulu que je prêche et que je le dise aux Congolais. Il ne m'a pas appelé ailleurs, ni dans mon pays, selon les hommes. Mais il a voulu que je change de pays et que ce pays devienne le mien. Et que l'amour de Dieu soit dans mon cœur pour ceux qui vivent dans ce pays, afin de leur dire, de les appeler. Cette place est aussi pour vous. Cette place, cette nouvelle terre, elle est aussi pour vous. Dieu n'a pas abandonné qui que ce soit sur cette terre et sur ce pays. Non! Quelles que soient les guerres, les atrocités qui sont commises au milieu de nous, quel que soit le niveau d'abandon de Dieu par beaucoup dans l'occultisme, dans toutes sortes de magies et autres. Dieu a un peuple au Congo, et même le pire, il est prêt à le pardonner, à le sauver aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. La terre retrouvera sa raison d'être et son héritage, accomplissant sa destinée, Ésaïe le prophète, ainsi que d'autres prophètes de l'Ancien Testament, nous éclairent sur la destinée de notre planète. Dans l'Ancien Testament, il en est beaucoup parlé. Dans la destinée de notre planète et du peuple des rachetés du Dieu vivant. Racheté, nous avons parlé du Rédempteur, du rachat, c'est-à-dire d'acheter ce qui avait déjà été acheté. Nous en avons parlé ici, il y a quelques dimanches de cela. Pourquoi? Parce que ce monde, cette terre, cette création n'appartient pas à Satan, elle appartient à Dieu. Mais Satan l'a volée. Et Dieu, dans son amour, il ne veut que racheter. Et c'est pour cela qu'il a payé un prix exorbitant. Et bientôt, nous en sommes à la dernière bataille. Et comme le temps est court et que l'ennemi sait qu'il est acculé et que bientôt tout sera fini pour lui, il rage. N'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Laissez-le rager. Jésus-Christ, le Seigneur, il est le plus fort. Il a vaincu par sa croix. Oui, Dieu a une destinée pour cette planète et du peuple des rachetés, du Dieu vivant. Ils vivront dans la paix, ils vivront dans la prospérité, dans un réel et une entière liberté sur cette terre nouvelle. S'il n'en était pas ainsi, qu'en serait-il de ceux qui sont morts dans le passé, de ceux qui sont morts et qui ont cru sans voir la liberté et la délivrance, qui n'ont jamais connu la véritable liberté durant leurs jours sur cette terre? Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 13 jusqu'à 16. Il est écrit là: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires. Étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais, en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur prépare une place. Alléluia. Alléluia. Car il leur prépare une place. Ils ne se sont jamais considérés comme étant des résidents permanents. Non! Ils se sont considérés comme étant des passagers. Car déjà par la foi, ils ont vu quelque chose de meilleur que Dieu avait préparé pour ceux qui se confient en lui. Ces hommes dans le passé qui ont cru, ces hommes qui ont placé leur espérance dans le Dieu vivant, ont vécu bien souvent dans des régimes esclavagistes ou en captivité. Ils ont été appauvris. On leur a saisi tous leurs biens, abandonnés, chassés par leurs ennemis qui détestaient le Dieu qu'ils adoraient et qui voulaient les soumettre à leur Dieu, à eux. Ils ont été appauvris, chassés par les guerres ou la persécution, dans la pauvreté et dans la maladie. Mais ils n'ont pas abandonné, car ils ont vu déjà par la foi la cité céleste. Et à cause de cette vision qu'ils avaient, étant des passagers sur cette terre, ils ont tenu ferme quelle que soit l'adversité. Ils ont connu la maladie à cause de nourriture malsaine, rejetés quand ils ont été. Ils ont connu l'infirmité. Ils ont connu le martyr. Pour beaucoup, la vie a été très courte. Très courte. Elle a été dure et cruelle. Ils n'ont jamais connu de paix. Ils n'ont jamais connu de prospérité. La prospérité qu'on proclame aujourd'hui dans bien des parties du monde, la prospérité matérielle. Et on est allé jusqu'à dire que si vous n'avez pas de prospérité matérielle, c'est que Dieu vous a abandonné ou vous ne marchez pas avec Dieu. Eh bien, combien dans le passé de ces saints qui ont été persécutés et rejetés, auxquels on a pris tous leurs biens et qui ont erré pour chercher à protéger leur vie d'un lieu à l'autre et qui étaient dans le besoin. Vous allez dire que c'était des hommes que Dieu avait abandonnés. Non! Ils étaient des combattants du royaume. Des combattants du royaume qui sont restés fidèles car leur foi ne dépendait pas de l'argent qu'ils avaient. Leur foi ne dépendait pas des biens qu'ils possédaient. Leur foi ne dépendait pas de leur position sociale ou de leur titre. Leur foi ne dépendait pas des choses de ce monde. Non, leur foi dépendait du Dieu vivant dans lequel ils avaient cru. Et ils savaient qu'ils n'étaient que des passagers sur cette terre et qu'ils étaient en voyage vers une terre et un pays bien meilleur. Combien de ces gens n'ont jamais connu donc la prospérité, ni la justice, ni de réel amour. Ils ont été haïs. Ils n'ont connu que la méchanceté et l'injustice. L'injustice, leur vie dure. Ils l'ont menée en glorifiant Dieu, en le servant et en rendant témoignage et en aimant leur prochain. Leur vie durant, ils étaient opprimés, traqués, maudits par le monde. Jamais reconnus, méprisés à cause de leur foi, à cause de leur droiture. Ils n'ont pas accepté la magouille, ils n'ont pas accepté le mensonge. Et à cause de cela, le monde les a rejetés, le monde les a critiqués et le monde les a abaissés. Peu importe, ils ont gardé leur honneur, ils ont gardé leur piété, ils ont gardé leur foi et ils se sont amassés une richesse. Une richesse que personne ne peut leur ôter, qui leur est réservée dans les parvis éternels. Car ils savaient qu'ils étaient des étrangers sur la terre et des passagers. Ils n'ont pas cessé d'aimer leurs prochains et même de leurs ennemis. Nous connaissons dans l'histoire de l'Église, combien de ces premiers martyrs qui ont été exécutés de façon si sauvage ont impressionné leurs persécuteurs. Et même, nous avons le témoignage de ces soldats lorsqu'ils ont vu la foi et le témoignage de ceux qu'ils étaient appelés à tuer là, devant tous. Ils ont dit, moi, je me tourne vers ce Dieu-là, je crois dans ce Dieu-là, coupez-moi la tête, je préfère, car je vois qu'ils ont ce que je n'ai pas. Nous le lisons dans l'histoire. Passager et étranger. Un passager n'a aucun bien ici-bas sur cette terre. Il ne fait que de passer. Un étranger n'a aucune voix au chapitre parce qu'il est étranger. Il parle différemment. Il est différent dans sa culture. Il est différent dans son allure. Il est un étranger. Il n'a pas le droit de vote là sur place. Il n'a pas le droit de décision dans la politique parce qu'il est un étranger. Gloire à Dieu, nous avons un pays là-haut. Nous avons un pays. Nous sommes des passagers, des étrangers sur la terre. Il y en a d'autres qui ont eu une vie meilleure. Peut-être qu'ils n'ont pas été persécutés comme certains. Peut-être que leur vie était meilleure. Mais quand même, assombrie par des peines, des souffrances, des larmes de toutes sortes. Ne pensez pas que celui qui a de l'argent ne souffre pas. Il y a la tendance dans notre monde de penser que ce n'est que le pauvre qui souffre. Et on regarde avec dédain ceux qui ont ce qu'on n'a pas, nous. Eh bien, ne vous bernez pas d'illusions. C'est un homme comme vous, quoi qu'il soit riche. Peut-être qu'il a tout ce qu'il faut, mais il est aussi malheureux que vous. Pourquoi? Même s'il mange tous les jours. Eh bien, parce que dans le fond de son âme, il a besoin de Dieu et il ne connaît pas Dieu. Il est dans le malheur, il est dans la souffrance, il est dans la peine, il est dans les larmes de toutes sortes avec des problèmes qui le submergent. Voilà le lot des hommes. Voilà le lot du péché. Voilà le lot de la maladie. Voilà le lot du virus sida. Combien de riches aujourd'hui sont atteints du sida? Dites-moi un peu. Peuvent-ils mieux guérir que les autres? Peuvent-ils mieux guérir que les autres? On ne peut acheter sa santé. J'ai ici, là, sous les yeux, quelques statistiques que j'aimerais vous lire. Savez-vous que plus de 25 millions de victimes ont à ce jour succombé du sida? 25 millions. Vous réalisez ce que c'est? Adultes et enfants vivent avec le sida dans le monde. Et ces gens sont estimés à 39 500 000 personnes aujourd'hui dans le monde. 24 700 000, soit 62%, se trouvent en Afrique, au sud du Sahara. Voilà. Là, je vous lis des statistiques officielles de l'OMS. Et plus de la moitié sont des femmes, au sud du Sahara. Parmi ces 62,5%. Évalué à plus de 12 millions, les jeunes vivent avec le sida. Ils représentent plus de la moitié de la population atteinte du virus sida dans le monde. Les jeunes, jeunes gens, jeunes filles, plus de la moitié de la population atteinte du sida dans le monde. Chaque jour, plus de 6 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans s'infectent du VIH, du sida. De 15 ans à 24 ans. Vous savez qu'on sait très bien que l'homme commence à vieillir à partir de 20, 25 ans. Il y en a déjà qui se détruisent à 15 ans. Le taux de jeunes filles reste plus élevé que celui des jeunes garçons. Chaque jour, 6 000 jeunes âgés de 15 ans à 24 ans s'infectent du sida. Il y a plus de jeunes filles que de garçons. Des nouveaux cas d'infection VIH adultes et enfants au cours de la seule année 2006 sont estimés à 4 300 000 dans le monde. 2006. Ça ne diminue pas. Dont 2 800 000, soit 65% en Afrique. Au sud du Sahara, l'Afrique noire, les cas de décès des adultes et enfants dus au sida au cours de l'année 2006 dans le monde sont estimés à 2 900 000, dont 2 100 000 soit 72% de décès sont enregistrés en Afrique au sud du Sahara. On estime à plus de 14 millions d'orphelins dus au sida dans le monde. 14 millions d'orphelins. Le taux d'infection du VIH en République démocratique du Congo est estimé à 4,8%, soit 2 800 000 de personnes vivant avec le VIH-Sida. Et il y en a ici dans cette salle. Toutefois, il y a des coins du pays du Congo, qui a un taux supérieur à 4,8%. Un taux supérieur. Seulement environ 30 000 sont sous rétroviraux. 30 000 sont sous médication. Ce n'est pas la solution, forcément. C'est simplement essayer de survivre, c'est tout. Est-ce que Dieu veut que nous ayons une vie pareille? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais écoutez, frères, sœurs, si nous vous annonçons la parole de Dieu, c'est bien à cause de cela. Les hommes vont vous dire, préservez-vous. Ah, comment? Avec le condom. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Or, il est reconnu que le condom n'est pas une préservation 100%. Absolument pas. Les médecins chrétiens qui ont étudié la question vous le diront. Les autres vous diront, vous êtes en sécurité, menteur. On n'est jamais en sécurité quand on viole la loi de Dieu. On n'est jamais en sécurité quand on fait sa propre volonté. On n'est jamais en sécurité quand on cherche à dévier, à interpréter la parole de Dieu et à saboter la morale. On n'est jamais en sécurité. Oh, que Dieu nous donne la sagesse. Pourquoi, oh Afrique, pourquoi es-tu le champion du sida? À cause du laisser-aller, à cause des enfants qui ne reçoivent aucune éducation, à cause de la polygamie, à cause de l'exemple qui n'est pas donné dans les foyers, à cause du laisser-aller complet, à cause d'une morale complètement piétinée, à cause de coutumes sataniques, de coutumes tribales sataniques qui viennent de Satan et de l'ennemi et de l'enfer. Nous nous détruisons. Nous nous détruisons. Frères, sœurs, si vous voulez être des enfants du royaume des cieux, il faut changer. Et celui qui va vous faire changer, c'est Jésus-Christ. Changez. Changez dans votre façon de penser, dans la façon de se comporter, dans la façon de comprendre la morale. Coureur de femmes, coureuse de garçons. Je t'aime, tu m'aimes. C'est quoi ça? Moi, je ne veux pas de cet amour-là sale, de cette bestialité qui vous fait porter des conséquences sur vous, sur vos enfants, sur votre femme, sur votre mari. J'ai connu ici, dans cette église, dans les temps passés, des hommes... Jusqu'à quand allons-nous violer les lois de Dieu et les commandements de Dieu, faisant partie de cette phalange d'hommes et de femmes qui nous ont montré l'exemple dans le passé, qui ont refusé la façon de vivre du monde, qui ont refusé de se soumettre aux rudiments du monde, et qui à cause de cela ont été rejetés par leur famille, rejetés par leur tribu, rejetés par leur société. Pourquoi? Parce que leur société pensait autrement, parce que leur société croyait autrement. Ah, même des religions dites chrétiennes se sont permis de persécuter ceux qui voulaient croire à la parole de Dieu. Lisez l'histoire. On les a enfermés, on les a brûlés, on les a attachés sur les galères comme des esclaves, pour ramer des rames qu'il fallait 4-5 hommes pour les bouger tant qu'elles étaient lourdes. Voilà! Mais ils ont gardé la foi, quelle que soit la souffrance et le gibet auquel on les a pendus plus tard ou brûlés vifs. Ils ont regardé, contemplé, alléluia, cette espérance merveilleuse. Oui, cette espérance, cette place que Dieu a préparée pour ceux qui croient et qui se réfugient en lui. Pourquoi ont-ils su résister malgré l'opposition et la persécution? Eh bien, parce que ils connaissaient mieux et ils savaient quelque chose que les autres ne savaient pas et qu'ils refusaient de connaître. Aveuglés par leur orgueil, leur esprit de domination, leur méchanceté, leur intolérance. Tous ces saints ont espéré et ont attendu une terre meilleure et se sont considérés comme des passagers et des étrangers sur la terre. Voilà, des passagers, des étrangers sur la terre, étrangers dans mon pays. Je ne peux pas faire ce qu'ils font. Je ne peux pas parler comme ils parlent. Je suis différent. Étranger sur la terre, où que j'aille, je suis différent. On va me détester parce que je ne veux pas faire ce qu'ils font. Peu importe, je sais où je vais et j'appartiens à un nouveau peuple. Après avoir accompli le nombre de leurs années, ces hommes sont morts, sans voir les promesses se réaliser pour eux. Mais ils sont morts dans la foi. Hébreux 11, 13. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient des étrangers et résidents temporaires sur la terre. Voilà. Ils sont morts. Sans avoir vu la réalisation des promesses, ils ont cru dans ces promesses, mais ils ne les ont pas vues. Ils en ont parlé, ils l'ont prêché, ils en ont parlé autour d'eux. À cause de ces promesses, ils n'ont pas voulu se soumettre au joug du monde. Et puis, ils sont morts. Ils n'ont pas vu. Mais par la foi, ils ont déjà contemplé. Quel témoignage merveilleux. Quelle foi extraordinaire. Résidents temporaires, voilà ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont proclamé. Cette terre n'est pas pour eux une résidence permanente. Non. Ils ne font que de passagers, que de passer. Ils aspirent à une meilleure patrie. Ils aspirent à une meilleure société. Une véritable patrie, un pays. Un pays avec une capitale, dont la Bible nous parle, de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, qui est, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, sur une terre nouvelle, une place réelle, pour ces étrangers résidents temporaires. Ils savent qu'ils n'appartiennent pas à cette terre où ils ne sont que pour un court temps. Mais l'éternité, leur résidence, elle sera là, là que, à la place que Dieu a préparée pour ceux qui s'attendent à lui. Quand je vois ce que certains hommes font pour avoir de l'argent, ils travaillent, ils mettent l'argent de côté, cet argent ce n'est que de la poussière et ça passe. Et jamais ils ne pensent à Dieu, jamais ils ne pensent à l'œuvre de Dieu, jamais ils ne pensent aux choses éternelles. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, et ces choses de la terre leur passent à travers les doigts. Mais voilà, il y en a d'autres où Dieu a renouvelé l'intelligence, une intelligence spirituelle. Ils voient déjà ce que les autres ne voient pas. Ils partent vers cette place, cet endroit, ce lieu réservé, cette nouvelle terre dont Dieu nous parle dans les Écritures. Ils sont tous en voyage vers cette résidence préparée pour ceux qui croient en lui, la nouvelle terre. Ils attendent qu'un jour Dieu prenne en main la royauté et le contrôle de la terre. Dieu a laissé entre les mains d'Adam la gérance de cette terre. Et jusqu'à maintenant, Adam est incapable de gérer cette terre. Dieu a respecté son pacte, son contrat, dominé sur la terre entière. Soumettez-la. Jouissez de tout ce qu'il y a sur cette terre. Je vous le donne, c'est à vous. L'homme se montre incapable de gérer les biens que Dieu lui a donnés. Il est devenu égoïste, égocentrique, matérialiste, incrédule. Le jour vient où le roi des rois reprendra les rênes de notre destinée, de la destinée de cette terre. Il est déjà roi de toute éternité dans les lieux célestes. Avec son règne, plus de péché. Plus de mort. Il aura ôté la malédiction. Plus de souffrance. Plus de pauvreté. Plus de larmes. Il essuiera les larmes de nos yeux. C'est ce qui est écrit plusieurs fois. Ces vainqueurs ont cru que la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. Vous connaissez cette prière? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, c'est une prière que nous devons faire. En ce jour, sa volonté se fera sur la terre comme au ciel. Pour l'instant, sa volonté n'est pas entièrement faite sur cette terre. Il y a la volonté de l'homme, la volonté de la chair, la volonté de Satan qui pousse l'homme à la destruction. Sa volonté, elle est dans le cœur de ceux qui ont cru en lui et qui disent non à Satan, non au péché, non à la magouille, non au mensonge, non à l'infidélité. Voilà. Sa volonté est faite dans ce cœur-là et dans le cœur de tous ceux qui ont cru. Mais sa volonté n'est pas faite à travers cette terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que cette volonté se fasse pour toujours. Pour le bien de ceux qui l'aiment et le servent. La volonté de Dieu est toujours bonne et parfaite. Faites-lui confiance. Pourquoi voulez-vous imposer votre volonté au lieu de vous soumettre à sa volonté? Tu es un orgueilleux. Voilà ce que tu es. Voilà pourquoi tu veux faire ta propre volonté. Non, soumets-toi, humilie-toi. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Mais celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. L'Ancien Testament parle beaucoup de ces temps futurs de l'éternité. Ésaïe 29, 19, il est dit là, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre redonnera jour aux défunts. » Alléluia. Lorsque ces hommes sont morts, ils mouraient sachant qu'un jour, ils se relèveraient de la poussière. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà ce que disait Job. Même quand ma chair aura disparu, quand ma peau aura disparu, moi et personne d'autre que moi, avec mes propres yeux, je verrai mon Rédempteur. Alléluia. Ils se relèveront dans la poussière, de la poussière où ils ont été mis dans ce trou, oublié depuis combien de siècles et d'années, que sais-je. Il ne reste plus rien du corps, peu importe. Nous possédons un Dieu vivant qui nous ramènera à la vie. L'apôtre nous en parle combien de fois, l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, voilà. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, vous qui êtes là dans la poussière. Car la rosée est une rosée de lumière et la terre redonnera jour aux défunts. Le peuple de Dieu ne cherche pas la délivrance de la terre, mais il cherche la délivrance sur la terre. Il revient bientôt. Un nouveau monde promis. Dans la parole de Dieu, il est parlé du millénium, de ces 1000 ans, d'une période de temps de 1000 ans de règne de Christ sur cette vieille terre adamique. Et dans Apocalypse 20, il y a, dans ces passages de Apocalypse 20, il y a six références de cette période de 1000 ans. Il s'agit littéralement d'une période de 1000 ans de règne de Christ qui commencera immédiatement après son retour en gloire avec ses saints, quand il détruira ses ennemis à la grande bataille d'Armageddon, la dernière bataille sur cette terre. Durant ce temps de 1000 ans, la promesse de Dieu du règne du Messie sur la terre s'accomplira. Il y a une promesse pour le règne du Messie sur cette terre, Jésus-Christ. Cette promesse s'accomplira. Les Juifs rachetés vivront sur leur terre selon la promesse faite à Abraham. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Et leur terre sera de la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. Jusqu'à maintenant, jamais Israël n'a possédé tout son territoire promis à Abraham. Mais pendant le temps de ces 1000 ans, cette promesse s'accomplira. Et les saints rachetés par le sang de Christ, de Jésus, ces saints ressuscités dans un corps nouveau, dans un nouveau corps, participeront au gouvernement de ce monde sur cette vieille terre pendant 1000 ans. Et le reste de la population du monde, après les jugements et les destructions qui seront venues sur ce monde, ce reste de population vivra dans une harmonie parfaite. Et les hommes, encore dans leur corps adamique, vivront bien plus longtemps, se multiplieront grandement pendant ces 1000 ans. Le millénium finira avec une dernière rébellion. Car pendant ce règne de 1000 ans de Christ sur cette terre, Satan sera enfermé. Et un ange d'une grande gloire dont nous parle l'Apocalypse le lira de chêne dans un précipice qui sera scellé et ne pourra pas nuire en quoi que ce soit la population de ce monde qui se multipliera grandement. Et beaucoup de ceux qui vivront et qui naîtront à ce moment-là n'auront jamais connu le temps que nous connaissons, nous, si ce n'est que peut-être leurs vieux parents. Et c'est pour cela qu'après ces 1000 ans, Satan sera relâché pour une courte période, afin, je dis bien, afin que chacun puisse choisir qui il veut servir. Dieu n'oblige personne, personne. Chacun doit avoir la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Adam a dû choisir. Nous, étant dans le mal, aujourd'hui nés dans le mal, nous avons à choisir. Et après ces 1000 ans, tous ceux qui seront nés sur cette terre, qui n'auront jamais eu cette occasion, pour ainsi dire, de choisir, auront Dès l'instant où Satan sera relâché, l'occasion de choisir soit pour Satan, soit pour Christ. Et c'est à la fin, à ce moment-là, lorsque cette grande rébellion sera fomentée, que Dieu se lèvera et qu'il y aura le jugement du grand trône blanc dans Apocalypse 20, 11 à 15. Le jugement du grand trône blanc, un jugement pur, saint, un jugement vrai. Et tous les hommes qui sont morts à travers les âges, sans avoir reconnu le Seigneur et le Sauveur, et qui l'ont rejeté, devront comparaître devant le grand juge. Ce sera le dernier jugement. Après cela, il n'y en aura plus. Le tout dernier. Et chaque homme sera jugé. Jugé, car la punition ne sera pas la même pour tous. Chacun sera puni selon la mesure de sa désobéissance. Ceux qui ont connu et qui ont rejeté auront une punition combien plus grande que ceux qui ne connaissaient rien. Et à ce moment-là, Dieu jugera les morts qui ressusciteront dans leur corps de chair pour comparaître devant le Dieu vivant qui est le maître de l'univers. Oh mes frères, Ésaïe 9:6 nous dit, renforcez la souveraineté et donnez une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ô Jésus. Et là encore, Ésaïe 11, 4, il est dit, il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Là, nous avons une parole qui s'adresse au moment des 1000 ans. À ce moment-là, alors, il nous est dit que celui qui mourra à 100 ans, sera un homme qui sera puni à cause de sa rébellion. Car il y aura toujours la possibilité de pécher, quoique Satan sera lié. Et il y aura, à ce moment-là, le juste juge. Il frappera la terre du sceptre de sa colère. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il s'agit là de cette époque de 1000 ans. Mes frères, beaucoup de choses viennent. Nous régnerons avec lui à ce moment-là. Et nous aurons un nouveau corps. Mais dans le monde, il restera encore des hommes qui, eux, devront choisir. Voilà. Et il est dit aussi, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Là, il s'agit donc de ce temps des 1000 ans. Parce que nous savons que sur la nouvelle terre, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura que la lumière. Ce sera une nouvelle société dans un nouvel environnement. Mais là, quand il a parlé du jour et de la nuit, il s'agit de cette terre sur laquelle il règnera, lui, et qui aura toujours son cycle de jour et de nuit. Beaucoup de choses sont dites dans la parole de Dieu. Sommes-nous prêts, frères et sœurs? Le temps est court. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, tu sais dans quel environnement nous vivons. Et tu vois, Seigneur, que aujourd'hui particulièrement, c'est le moment de l'année où nous pensons particulièrement à tous ceux qui sont affligés par le sida. Et nous savons que le sida, Seigneur, est le résultat du laisser-aller, le résultat de la convoitise de la chair, le résultat de la débauche et le résultat du péché. Ô mon Dieu! Et même il y a des gens qui contactent le sida, Seigneur, simplement parce que ils ont été en contact avec du sang infecté. Seigneur mon Dieu, oh, pourquoi tant de malheurs? C'est parce que les hommes t'ont rejeté. Ils t'ont rejeté, mais tu as préparé quelque chose de bien meilleur. Et nous avons l'exemple de ceux du passé qui ont enduré, quoique rejetés, qui ont enduré le rejet, la moquerie, la privation de tous leurs droits et qui ont erré, mais qui ont tenu ferme, car ils se sont considérés comme étant des étrangers sur la terre. Ils se sont considérés comme étant des passagers sur cette terre. Ils avaient les yeux, Seigneur, sur cette terre nouvelle que tu as promise dans ta parole. Et je sais qu'aucun d'eux ne vont être déçus. Et nous qui avons cru, nous ne serons pas déçus, car ce que tu as dit, tu l'as dit et tu ne peux mentir. Merci pour le témoignage de Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, travaille dans nos cœurs. Ô mon Dieu, êtes-vous prêt, chacun d'entre vous, à rentrer dans cette cité céleste? Si vous n'êtes pas prêt, levez-vous. Je vous en supplie et je vous invite d'y entrer. Entrez par la foi maintenant. Par la foi maintenant. Si vous voulez entrer, levez-vous. Afin que vous preniez votre propre décision. Qui veut? Vous qui n'êtes pas prêt, que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Ô Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse sur les balcons. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans la salle. Ô Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces gens qui se lèvent. Ô Jésus, 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 Jésus. Cette terre n'est plus enviable. La vie ici-bas sur cette terre n'est pas une vie plaisante. À tout moment, des catastrophes de tout genre, des jugements. Oh mes amis, préparez-vous, s'il vous plaît. Préparez-vous à rentrer dans la ville. Oh Jésus, il n'y rentrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie. Êtes-vous dans le livre de vie? Si vous n'y êtes pas, levez-vous maintenant. Et le Seigneur y mettra votre nom. Changez de comportement, changez de vie. Seigneur, Seigneur. Je t'apporte ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces hommes, ces femmes qui se lèvent à travers cette salle. Seigneur, tu les connais. Je ne les connais pas. Touche leur cœur, touche leur vie. Donne-leur le courage de marcher avec toi, Seigneur, et de mettre leur vie en règle. Ô Jésus, les choses de cette terre ne sont que poussière. Seigneur, ces choses auxquelles nous sommes si attachés vont disparaître un jour. Elles vont vieillir, elles vont se casser, elles vont se démolir. Non, Seigneur. Nous ne pouvons nous attacher à ces choses de la terre. Aide-nous à nous affectionner aux choses d'en haut, plus que tout. Oui, plus que tout. Seigneur, tu les connais chacun d'eux. Inscris leur nom dans ton saint livre et donne-leur le courage d'aller jusqu'au bout dans leurs décisions. Merci Père, vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, sanctifie les dîmes et les offrandes que tes enfants vont te présenter maintenant. Sanctifie, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes, je t'en prie. Tu sais que bien souvent, cet argent qui est mis dans ces paniers, c'est quelque chose. C'est un argent, Seigneur, qui représente le nécessaire. Ce n'est pas le superflu. S'il y en a qui donnent leur superflu, beaucoup donnent leur nécessaire. Mais tu ne permettrais pas, Seigneur, que cela leur manque. Et aide-nous, Seigneur, à utiliser cet argent pour la gloire de ton nom. Et pour répandre cet évangile sur cette terre. Merci, Père. Merci.
Pendant que les paniers circulent, nous allons chanter le chant numéro 95 qui dit « J'ai l'assurance ». Présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté.
Son
Saint-Esprit m'a régénéré.
Son Saint-Esprit.
repos et parfait bonheur. Mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour.
Je veille en attendant ton retour.
Je suis comblé sûr de ton amour.
Je suis comblé sûr de ton amour.
De mon histoire, c'est là mon chant.
C'est mon histoire, c'est là mon chant.
Louer mon sauveur les jours durant.
Louer mon sauveur,
mon sauveur,
mon sauveur, les jours durant.
C'est mon histoire,
c'est mon histoire,
c'est là mon chant.
C'est là mon chant.
Chant.
C'est mon histoire,
c'est mon histoire,
c'est là mon chant.
Louez mon sauveur,
louez mon sauveur,
mon sauveur,
les jours du monde.
C'est mon histoire,
c'est mon histoire,
c'est là mon chant.
Louez mon sauveur,
louez mon
sauveur. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.